إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله بداية أنوه بحديثي بمقدمة هي من الأهمية بمكان كما تعلمون خلق الله جل وعلا العبد ليختبره ليمتحنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc pour débuter, je tiens à mettre une introduction extrêmement importante. Cette introduction, comme vous le savez tous, est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la création, et qui plus est les êtres humains que nous sommes, et nous a mis sur terre pour nous éprouver. Donc tout ce temps que nous sommes, nous sommes dans une épreuve, nous sommes dans un examen constant. Et cet examen, il a des règles. Et il a deux axes qui le régissent. Ces deux axes, les ulama les ont cités. Ils ont dit « Mu'amalatul abd li rabbihi wa mu'amalatul abd li bani jinsihi ». Il y a deux axes. Le premier axe, c'est le rapport que tu entretiens avec ton Créateur. Le rapport que tu entretiens avec le Seigneur de l'univers, Jalla wa Ala. Le rapport vertical. Et le deuxième axe, c'est le rapport que tu entretiens avec les gens de ton espèce. Les êtres humains, la création. Donc toi, tu es éprouvé dans ces deux axes-là. Et ta réussite... ta réussite, elle est en fonction de ta réussite dans ces deux axes. Donc premièrement, un de tes premiers soucis, c'est ton rapport que tu dois avoir vis-à-vis de ton Seigneur. Et le deuxième souci, c'est le rapport que tu dois avoir vis-à-vis des créatures semblables à toi. « Wal-yawm sanaqifu ma'a mu'amalati al-'abd li rabbihi tabaraka wa ta'ala » Aujourd'hui, nous allons traiter un point parmi les nombreux points qui gèrent la relation du serviteur vis-à-vis de son Seigneur. Donc, il faut savoir une chose, c'est que toi, tu te dois, parmi les épreuves que tu dois subir dans ce bas monde, c'est le fait d'entretenir un lien avec ton Seigneur et le fait que ce fil qui te lie à ton Seigneur ne se coupe pas. Et cette relation, elle a des règles. Elle a des qawa'id. Wa min ahammi al-qawa'id. Parmi les règles les plus importantes, une règle que les pieux prédécesseurs ont citée, ils disent la khayra fi 'ayni la tabki. Il n'y a aucun bien dans le serviteur et dans la relation qu'il a vis-à-vis de son Seigneur lorsque les pleurs ne touchent pas l'œil. Lorsque le serviteur, durant son rapport avec son Seigneur et sa relation avec son Seigneur, n'a pas une relation de pleurs et une relation de tristesse, qu'il sache qu'il n'y a aucun bien dans sa relation et dans ses yeux. Et pour détailler ce point, et pour vous montrer que ce point il est évident dans le Coran et dans la Sunna ainsi que chez les pieux prédécesseurs, l'imam Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, dans la biographie de Abu Sulayman al-Darani, il rapporte la parole suivante. Et c'est une parole qui mérite d'être apprise. Abu Sulayman al-Darani, il dit quoi? Il dit li kulli shay'in 'ilm. Toute chose a une science. Toute chose a une science. Et il y a des indications pour savoir où tu vas et pour aussi contrôler la chose. Donc il dit « Li kulli shay'in 'ilm ». وعلم الخذلان، علم الخذلان ترك البكاء والخشية من ربك. Il dit toutes choses à la science. Et la science, pour savoir si Allah Jalla wa Ala t'a délaissé, s'est détourné de toi, ne veut plus de toi, si tu veux savoir cela, alors la science que tu dois apprendre, c'est quoi? Le fait que tu ne pleures plus et le fait que tu n'entretiens plus une relation avec ton Seigneur, une relation de pleurs et de tristesse. Alors à ce moment, sache que tu es rentré dans ce qu'on appelle al-khidlan wa iyadu billah. Al-khidlan ou al-khizi, c'est lorsque le serviteur perd sa place auprès de son Seigneur. Lorsque le serviteur n'a plus de place auprès d'Allah Jalla wa Ala et qu'Allah se détourne de lui. Et c'est pour ça que dans la biographie de Atta as-Sulami, qui fait partie de l'un des plus grands pieux prédécesseurs, et l'un des plus grands adorateurs de cette nation, de cette Ummah, il est tombé malade. Et Atta as-Sulami a eu un problème à l'œil. Alors le médecin lui a conseillé d'aller visiter les jardins, et il l'a emmené avec lui pour visiter les jardins, car il est connu que la verdure a un effet bénéfique sur la vue. Donc il l'a ramené avec lui. Il l'a ramené dans les jardins. Mais Atta as-Sulami, lorsqu'il a commencé à rentrer dans le jardin, il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer énormément. Et le médecin lui a dit une phrase. Il lui a dit, « Ya Atta, si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu vas perdre la vue. Ya Atta, si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu vas perdre la vue. Alors pourquoi pleures-tu ? » Atta as-Sulami lui a dit, « Si je pleure, c'est parce que lorsque j'ai vu ces jardins, je me suis rappelé des jardins du paradis. Alors j'ai eu peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'en prive. Alors je me suis mis à pleurer. » Le médecin lui a dit, « Mais si tu n'arrêtes pas, tu vas perdre la vue. » Alors il lui a dit, « La khayra fi 'aynin la tabki. » Il lui a dit, « Il n'y a aucun bien dans un œil qui ne pleure pas. » Et lorsque vous lisez les biographies des plus prédécesseurs, vous retrouvez cela constamment. Mathalan, Hamzatul A'ma. Un pieux prédécesseur qui est connu, qui s'appelle Hamzatul A'ma, qui a été un élève, qui a été éduqué par Abu Sa'id. Abu Sa'id, c'est la cunia de Hassan al-Basri. Justement, ce Hamzatul A'ma, rahmatullahi alayh, il a été pris par sa mère depuis son plus jeune âge. Et elle l'a ramené vers qui ? Vers Abu Sa'id. Elle lui a dit, « Arju an yuslihuhu Allah » min khilal murafaqatika lahu wa mulazamatika lahu. J'espère qu'Allah Jalla wa Ala va l'éduquer et va le purifier à travers ta compagnie et à travers le fait qu'il s'assoie auprès de toi. Et Hamzatul A'ma, il dit, ikhtalaftu ilayhi kathira. Je suis rentré, j'ai visité Al-Hasan al-Basri énormément. Chaque jour, il rentrait des dizaines de fois et des vingtaines de fois chez Al-Hasan al-Basri. Lakin Hamzatul A'ma, il dit, je ne suis pas rentré une seule fois sans que je le trouve en train de pleurer. Imma an yabkiya fi khalwatihi aw ajiduhu fi salatihi fa asma'u najibahu wa najwah. Je le trouve en prière et je l'entends pendant la prière se plaindre auprès de son Seigneur et à pleurer, à tel point que cela a été lourd pour moi. Fa dhahabtu ilayhi wa qultu lahu ya 'amma, ô mon oncle, pourquoi tu fais de pleurer? Pourquoi tu pleures constamment? Et là, Al-Hasan al-Basri lui a donné une règle. La première phrase qu'il lui a dit, il lui a dit, « Ya Bunay, ماذا يفعل المؤمن إذا لم يبكي ?»« Ya Bunay, ô mon enfant, dis-moi, que va faire le croyant s'il ne pleure pas ?» Une relation avec Allah sans pleurs, ça n'existe pas. Que va faire le croyant s'il ne pleure pas? À quoi sert-il? Ensuite, il lui a dit, et ça c'est une qaïda, celui qui l'apprend et qui l'applique sera sauvé auprès de son Seigneur. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, adimil huzna ala khayr al akhirah la'allaka tasilu ila rabbik. Il lui a dit, adimil huzna, sois constamment triste et sois constamment en état de pleurs, de peur de rater les bienfaits de l'au-delà. Peut-être arriveras-tu vers ton Seigneur en état où il t'agréera. Ensuite, il lui a dit quoi ? Ba'da dhalik lui a dit wabki fi khalwatik, et pleure lorsque tu es tout seul. La'alla mawlak yattali'u 'ala 'abratak fayarhamak. Il lui a dit et pleure lorsque tu es en état d'isolement, lorsque tu es seul et que personne ne te voit, peut-être ton Seigneur te verra dans cet état-là et il te fera miséricorde. Donc on voit que, ici les pieux prédécesseurs, ils savaient que l'une des plus grandes règles qui gère la relation entre le serviteur et Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les pleurs et la tristesse. Et ça, vous le retrouvez évident dans le Coran. Je vous donne un exemple. Et méditez avec moi. Allah jalla wa ala, vous connaissez tous le verset où Allah dit وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, et celui à qui on donne le livre derrière son dos, il le prend de sa gauche et derrière son dos. Ça, on parle de qui? Les gens de l'enfer. مَذَا سَيُفْعَلُ لَهُ سَيَصْلَ سَعِيرًا, celui-là il va être attiré, attisé dans la fournaise. Celui-là c'est l'enfer éternel qui l'attend. Pourquoi? مَا السَّبَبُ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Tu t'as déjà médité sur ce terme? Il était dans ce bas monde auprès de sa famille. Masroura. Il était content. Il était joyeux. T'as déjà médité sur ce terme? Masroura. Et ensuite, voyage avec moi et ouvre et regarde quand Allah Azza wa Jal parle des gens du paradis. Mathalan, quand tu ouvres fais surat al-Tur, Allah Jalla wa Ala nous cite les gens du paradis et les délices et al-wildan alladhina tufuna alayhim, et les enfants qui les servent, etc. Et ensuite, il nous cite un dialogue entre les gens du paradis. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Yani, comment vous avez fait pour rentrer vous au paradis? Et là leur réponse elle a été unanime. Inna kunna qablu fi ahlina kifash mushfiqin. Regarde, ahlun nar كانوا في أهلهم مسرورا أما أهل الجنة كانوا مشفقين خائفين واجلين. Lorsque les gens du paradis s'interrogent les uns les autres et que la réponse vient, Allah nous dit quoi? Que ils ont tous dit à l'unisson, et nous étions, pendant que nous étions dans ce bas monde avec nos familles, nous étions mushfiqin. Mushfiqin, ça veut dire quoi? Nous étions apeurés. Nous étions constamment en état de peur. Ça c'est qui ça? Ça c'est les gens du paradis. Donc choisis pour toi. Choisis, sache qu'en fonction de ton état dans ce bas monde, tu peux déjà définir ton état dans le-delà. Et preuve de cela, il y a un hadith rapporté par Ibn Hibban fi sahihihi wa al-Bayhaqi fi Shu'ab wa kadhalika rawahu al-Bazzar fi al-Musnad et plein d'autres. Wa hadha al-hadith yani sahih al-isnad. De nombreux ulama l'ont authentifié. Minhum al-Hafid ibn Hajar fi Mukhtasar al-Zawaid l'authentifie. Al-Sheikh al-Albani fi Silsila l'authentifie. Ce hadith il est authentique. Wa hadha al-hadith min hadith Abi Huraira radiyallahu an. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Rabbul Izza. Yani c'est un hadith qudsi, c'est un hadith divin. Celui qui parle c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète rapporte qu'Allah dit وعزتي وجلالي. من الذي يقسم؟ ربنا تبارك وتعالى. Qui est celui qui jure? C'est Allah Jalla wa Ala. وعزتي وجلالي. Par ma puissance et ma majesté. Et Allah Jalla wa Ala, quand il jure, donc déjà, le simple fait de jurer dans la langue arabe, ça signifie quoi? Deux choses l'une. Soit, généralement, on jure quand on a une personne devant nous qui dément l'information. Tu viens, tu lui dis, Omar est rentré dans la maison. Il te dit, Wallah, Omar, il est rentré dans la maison. Sauf que, avant de jurer, il y a des étapes. Parce que Al-Qasam, c'est parmi ce qu'on appelle les anwa' du tawkid, pour confirmer l'information. Mais le fait de jurer fait partie des syntaxes les plus fortes quand tu veux affirmer une information. Alors imagine-toi quand le Seigneur de l'univers jure pour confirmer cela. Il dit quoi ?
وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين.
C'est pas possible. Par ma puissance et ma majesté, je ne peux rassembler deux peurs et deux sécurités pour mon serviteur. Jamais. Ensuite, le prof, Allah Azza wa Jal dit dans le hadith, فَإِنْ هُوَ أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا خَوَّفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si il se sent en sécurité vis-à-vis de moi dans ce bas monde, alors je lui ferai peur le jour de la résurrection.
وَإِنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
Par contre, si il a peur de moi dans ce bas monde, et il me craint et il pleure, alors je lui donnerai la sécurité dans l'au-delà.
Donc on voit bien que ce hadith-là, ainsi que les textes qui sont venus préalablement, nous montrent que la relation qui gère le croyant à son Seigneur, c'est une relation de peur et de pleurs. C'est une relation de peur et de pleurs.
Et cela, il est évident lorsque tu lis la biographie des plus prédécesseurs, ou même avant cela.
حينما تقرأ سيرة سيد الخائفين والبكائين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Hein? Le maître des gens qui pleuraient pour leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu lis la sunna, tu vois que le prophète sallam pleurait énormément. Les hadiths qui nous montrent les pleurs du prophète sallam sont nombreux. D'accord ? À tel point que si je viendrais à les citer un à un, je ne finirais pas. Un exemple, l'imam Ahmed rapporte dans son musnad, excusez-moi, je suis très encombré du nez. L'imam Ahmed rapporte dans son musnad, rahmatullahi alayhi, qu'un jour le prophète sallam a vu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu ses compagnons. Toujours je suis triste lorsque je viens dans des mosquées et je dis qala rasulullah et j'entends hein kana la tantiqu bi binti shafa ya sallu ala nabi sallallahu alayhi. Ça c'est une chose qu'on doit apprendre. Lorsqu'on entend sallallahu alayhi rasulullah, on dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit entendre les murs trembler de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'es pas dans un jumu'a là. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Ibn Abbas, il dit man akhta'a as-salata alayhi faqad khati'a tariq al-jannah. Celui qui oublie de prier sur moi, il s'est égaré du chemin du paradis. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit parmi les personnes les plus avares, celui qui est avare envers la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'oubliez jamais, lorsque vous entendez le nom de votre bien-aimé, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis sa biographie, il y a des faits qui ne trompent pas. Tu vois que sa relation, c'est une relation de tristesse. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu ses compagnons rassemblés. Alors il a accouru vers eux. Il leur a dit, que faites-vous? Pourquoi êtes-vous rassemblés? Ils lui ont dit, nous sommes en train de creuser une tombe. Nous sommes en train de creuser une tombe. Quelle était la relation? Quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il est dit textuellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu le prophète, il a entendu la tombe. Il a pris conscience que on parlait du jour de la résurrection et du retour vers Allah Jalla wa Ala. C'est comme s'il avait perdu ses forces. Alors il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux et il a commencé à pleurer et à pleurer et à pleurer. Et il faisait un geste. Il faisait quoi? Il regardait les cieux et il regardait la tombe. Il regardait les cieux. Et il regardait la tombe. Et ensuite, il dit à ses compagnons, لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّ. Pour cela, préparez-vous. Pour cela, préparez-vous. Certains ulama, ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu le mashhad du qabr, la vue de la tombe, s'est rappelé que c'était un endroit, l'un des premiers endroits qui est l'une des étapes vers laquelle on revient vers Allah, jalla wa ala. Alors, il s'est mis à genoux, il a perdu ses forces, et il s'est mis à pleurer et il regardait les cieux comme s'il
hein, il s'agenouillait et il montrait sa pauvreté pour qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne et lui fasse miséricorde. Et ensuite, il regardait la tombe et les pleurs coulaient par elles-mêmes. Et il dit à ses compagnons, pour cela préparez-vous, pour cela préparez-vous, pour cela préparez-vous. De nombreux hadiths, vous connaissez le hadith du prophète sallam lors de la bataille de Badr, lorsque la plupart des compagnons sont restés la nuit en train de dormir. Or, le prophète sallam a passé toute sa nuit agenouillé et en pleurant devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Un hadith rapporté par Ibn Hibban, de nombreux hadiths, un hadith rapporté par Ibn Hibban, et ce hadith là c'est un hadith vraiment qui te montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son Seigneur. Et c'est notre exemple. Imagine-toi, c'est la meilleure des créatures, la meilleure des créatures qu'Allah jalla wa ala a mis sur terre, une créature dont les péchés futurs et antérieurs sont pardonnés, futurs et passés sont pardonnés. C'est-à-dire que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvre et pleure pas pour se faire pardonner, pas pour atteindre la miséricorde, non, il pleure et il demande pardon pour qu'Allah jalla wa ala l'élève en degré et le rapproche de lui. Pendant que nous pleurons pour se faire pardonner et espérer le paradis, lui ça y est, c'est déjà acquis. Donc il fait tout cela pour se rapprocher encore plus de son Seigneur. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban ainsi que d'autres, un hadith authentique, Aïcha radiallahu anha, elle raconte qu'une soirée, elle était sur le lit conjugal avec son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète l'a regardé, il lui a dit, Ya Aïcha, dharini ata'abbadu li rabbi. Regardez, subhanallah, il lui a dit, Ya Aïcha, laisse-moi aller adorer mon Seigneur. Alors Aïcha radiallahu anha, an-naqiyatu at-taqiyya, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, Wallah, inni uhibbu qurbak. Wallah, j'aime être proche de toi. Lakin, je ne serai jamais un rempart entre toi et l'adoration d'Allah Jalla wa'ala. Va. Ensuite, le prophète sallam, qama wa tawadda'a min shalli mu'allaqin. Il s'est levé, il a pris, la maison du prophète sallam, c'était une maison vraiment modeste. Il s'est levé, il a pris une gourde. Hein, il a fait le wudu rapidement et kabbara. Wa dakhala fi salati. Il a fait Allahu Akbar, il est rentré dans sa prière. Aïcha radiallahu anha nous dit, il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que les pleurs mouillent son visage. Et ensuite, il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que les pleurs mouillent sa barbe. Ensuite, il a fait le ruku'. Aïcha nous dit, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il a mouillé son hijj. Ensuite, Aïcha radiallahu anha nous dit, il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il ait mouillé la terre sur laquelle il priait. Il a mouillé le sol sur lequel il priait. Ça, c'est qui, ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Lorsqu'il est parti le voir, il lui a dit, Ya ibn Mas'ud, iqra alayya al-Qur'an. Il lui a dit, iqra alayka al-Qur'an wa alayka unzil. Vais-je lire le Qur'an alors que sur toi il a été descendu? Lorsqu'il lui a dit, hasbuka, ibn Mas'ud, il a levé sa tête, il a dit quoi? Fa'idha bi'aynayhi tadrifan. Il a vu les pleurs du prophète. Donc les pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux. De même, lorsque tu regardes les pieux prédécesseurs, et parmi eux, la meilleure créature dans cette communauté après le prophète, c'est qui? Abu Bakr. Abu Bakr, je ne vais pas tous vous citer tous ses pleurs, on n'en finira pas, mais je vais vous citer juste le descriptif cité dans Sahih al-Bukhari. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sur son lit de mort, dans le hadith de Aïcha, il s'est dirigé vers ses compagnons, après qu'il est tombé plusieurs fois, qu'il ait perdu connaissance. À la troisième fois, il s'est réveillé, il a dit quoi? Marru Abu Bakr falyusalli bin-nas. Ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige la prière. Tous les compagnons présents à ce moment-là, ils ont dit tous à l'unisson, ils ont dit quoi? La innahu rajulun asif. Non, pas Abu Bakr. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est asif. Ça veut dire quoi, asif? Ça veut dire que la tristesse a pris son cœur. Khalas. Abu Bakr. Et après, ils ont dit dans le hadith, pourquoi ils n'ont pas voulu le laisser diriger? Ils ont dit à Rasulallah, lorsqu'il prie, on ne différencie pas les pleurs du Coran. Lorsque Abu Bakr dirige la prière, on ne peut même pas savoir, on ne comprend rien. Pourquoi? À cause de ses pleurs. C'est une personne tellement triste que les pleurs ne sont pas différenciés du Coran. De même, Omar, radiallahu anhu, vous savez qu'il est cité dans la biographie de Omar qu'il avait quoi? Il avait khattani aswadani sur son visage. Il avait deux traits sur son visage. C'est quoi les deux traits? C'est les pleurs, ils ont creusé deux traits sur son visage. C'est qui ça? C'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et comme ça, je vous invite à lire toutes les biographies de tous les plus prédécesseurs que vous connaissez. Vous allez voir que l'une des règles générales qui géraient leur relation avec leur Seigneur, c'était quoi? C'était Al-Buka wal-Khashya min Rabbihim tabaraka wa ta'ala. Les pleurs et la crainte vis-à-vis de leur Seigneur, Jalla wa ala. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous les grands imams qui ont écrit dans les sunan, etc., vous allez voir que dans leur recueil, ils laissent toujours une place à cette règle-là. Mathalan, Al-Imam al-Tirmidhi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Jami'u al-Sahih. Al-Jami'u al-Sahih, ce qui est connu chez la plupart des musulmans comme Sunan al-Tirmidhi. Hein, le livre, il s'appelle pas Sunan al-Tirmidhi, il s'appelle comment? Al-Jami'u al-Sahih. Vous allez voir que dans le Kitab al-Zuhd, il a laissé toute une porte sur ce qu'on appelle Fadl al-Buka wal-Khashya min Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Mundhiri, qui a écrit quel livre? Al-Targhib. D'accord, vous allez voir qu'il a laissé tout un chapitre. Al-Nawawi, dans Tibyan, il a laissé tout un chapitre. Et comme ça, tous les savants, quand ils écrivaient des livres, ils laissaient généralement un chapitre pour parler de cette règle qui gère le rapport du serviteur avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous. C'est quoi? C'est que sache une chose, que tu ne pourras jamais arriver vers ton Seigneur en espérant qu'il t'agrée sans qu'il y ait cette relation de pleurs et de tristesse entre toi et ton Seigneur. Donc si toi, dans ta vie de tous les jours, tu fais que de rigoler, tu fais que de t'amuser, et que les larmes ne coulent que très rarement, sache une chose, c'est que le lien qui te lie avec ton Seigneur a été coupé depuis très longtemps. Le lien qui te lie avec ton Seigneur a été coupé depuis très longtemps. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il a une parole en or qu'il faut qu'on apprenne tous. Il dit quoi? Il dit Abad, le plus éloigné. Abadul Qulub min Allah, le cœur le plus éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-qalb al-qasi. Fawailun lil-qasiyati qulubuhum bi dhikrillah. Allah jalla wa ala a promis malédiction et malheur à ceux qui ont ce cœur, le cœur dur. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dit quoi? Et le premier signe du cœur dur, idha usiba fi a'yunihi bil qahd, lorsque la sécheresse touche ses yeux. Ça, c'est le premier signe qui prouve que ton cœur est dur et que tu es le serviteur le plus éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au moment même où tu penses être le plus proche, fais attention à cela. Sache une chose, cette règle-là, elle doit être une règle où on médite dessus constamment. Constamment dans la vie de tous les jours du croyant, il doit se poser cette question-là. Où j'en suis vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et ce où j'en suis, pour le savoir, il y a cette règle-là. Qui est quoi? Qui est la relation de pleurs et de tristesse que tu as avec ton Seigneur Jalla wa ala. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre saint, lorsqu'il décrit ses pieux prédécesseurs, lorsqu'il décrit ses serviteurs qu'il aime, il dit quoi? Wa idha tutla alayhim ayatul rahman, madha fa'alu? Kharru sujjadan wa bukiya. Et regarde, ça c'est un verset où on a cité les prophètes, Nuh, Ibrahim, etc. Il a cité toutes les meilleures créatures qu'Allah Jalla wa Ala a créées. Et il leur a dit Wa idha tutla alayhim ayatul rahman. Et lorsque les versets du serviteur leur sont récités, kharru, hein, ils perdent leur force et ils s'agenouillent et ils se prosternent, sujjadan wa bukiya, et en pleurs. Akadakad. Voilà comment ils étaient les pieux, comment ils sont décrits les pieux dans le Coran. Wa nahnu al-yawm al-ayat tutla wa al-ahadith tuqra wa al-mawa'id tulqa. Lakin madha naf'al? Aujourd'hui, les versets sont récités. Les hadiths nous sont donnés. Les prêcheurs parlent. Mais ça rentre par là, ça sort par là. Comme si de rien n'a été cité, comme si de rien n'a été dit. Et ça, c'est quoi? C'est une véritable catastrophe. Et que si les serviteurs ne prennent pas compte de cela et qu'ils essayent de se corriger le plus tôt possible, alors à ce moment-là, j'ai peur que nous arrivons devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on nous considère parmi les créatures les plus pires auprès d'Allah jalla wa ala. Et ça, c'est un point extrêmement important, les frères. Que chacun d'entre nous médite sur ce point. Que chacun d'entre nous médite sur ce point. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, ainsi que l'imam Tirmidhi et bien d'autres, et c'est un hadith que Al-Hakim rahmatullahi alayhi dans son Musadrak authentifie, et il dit qu'il est selon les conditions de Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit: Inni ara ma la tarou wa asma'u ma la tasma'u. Je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Et ensuite, il nous cite une chose que lui voit et entend et que nous n'entendons pas. Il dit quoi? Attati sama wa huqqa laha an ta'it. C'est-à-dire quoi? Attati sama, c'est quoi? Sautul aqtab. Hein? Vous savez quand le grésillement quand tu es sur une monture de la selle. Grz, grz. Ou quand tu marches sur du bois, tu as l'impression qu'il va lâcher. Attati sama wa huqqa laha an ta'it. Le ciel, il va bientôt craquer. Il va bientôt lâcher. Pourquoi? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma min mawdi'i arba'ati asabi'a illa malikun. Sans qu'il y a, il n'y a pas un endroit de quatre doigts sans qu'il y ait un ange malikun wadi'u jabhatahu sajidan lillah. Sans qu'il y ait un ange qui est comment? Qui a posé son front en prosternation en glorifiant Allah tabaraka wa ta'ala. Penses-tu qu'Allah il a besoin de notre adoration, de moi et de toi? Hein? Allah, il n'a pas besoin de notre adoration. Tu t'imagines, toi, aux cieux, il n'y a pas un endroit de quatre doigts sans qu'il y ait un ange prosterné qui glorifie son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le prophète nous dit quoi? Pour nous faire comprendre que si on adore Allah, azza wa jal, c'est pour nous sauver nous-mêmes. Il dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, il jure, il dit Wallah, لو تعلمون ما أعلم. Si vous avez la science que j'ai, si vous preniez conscience des choses que j'ai pris conscience, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله vous pleuriez beaucoup et vous rirez très peu. Ensuite le prophète ne s'est pas arrêté là et il dit quoi? وما تلذذتم بالنساء على الفروشات. Tellement la peur et les pleurs auraient pris place dans vos cœurs que tu ne penserais même pas à prendre jouissance auprès de ta femme dans ton lit conjugal. Ensuite, le prophète nous dit wala dhahabtum wala sa'adtum ila as-su'udat. Vous serez partis dans les montagnes, dans les déserts. Tajra'una ila Allah. Qu'est-ce que vous ferez? Tajra'un, tasrukhun, tasihun, taltaji'un. Vous serez tous partis dans les montagnes, dans les déserts, pour demander pardon à Allah Jalla wa Ala, pour pleurer, pour se prosterner, pour montrer votre pauvreté vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. Dans la suite de ce hadith, dans la riwaya de Tirmidhi ainsi que d'autres, il est dit wa law wudittu law kuntu shajaratan tu'ad ou tu'dad. Si seulement j'étais une branche, hein, tustasal tuqta', si seulement j'étais simplement une branche qu'on coupe, qu'on mâche et qu'on jette. Sur cette phrase-là, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que c'est un hadith qu'on appelle un hadith mudraj, c'est-à-dire une parole du compagnon qui a rapporté ce hadith, c'est-à-dire Abu Dhar, ou c'est une parole du prophète sallam? Peu importe. Ibn al-Arabi, al-Qadi al-Maliki, rahmatullahi alayhi, dans son explication de Tirmidhi, qu'on appelle Aridatul Ahwadi, il prône l'avis que cette parole, c'est la parole du prophète sallam. Alors imagine-toi, le prophète sallam dit quoi? Si seulement j'étais un arbre qu'on coupe et qu'on jette. Il a dit, j'espère même pas rencontrer mon Seigneur, tellement j'ai peur de cette rencontre-là. Ça c'est quoi? C'est le rapport avec Allah Jalla wa Ala. Comment le croyant doit nourrir constamment ce rapport. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais une fois que cela a été dit, généralement on s'arrête ici. On s'arrête ici. Et bien, il y a beaucoup de questions qui restent. Pourquoi je vais pleurer? Et quels sont les moyens qui vont me permettre d'atteindre cette crainte pour pleurer? D'accord? Et aussi, dois-je constamment pleurer? Je ne dois plus vivre. Il y a des questions qui se posent. D'accord? Rapidement, je vous fais quelques signes. Pour développer ces points-là, il faudrait des conférences et des conférences. Mais ce qu'on pourrait dire ici, c'est que lorsque le croyant ne sait pas pourquoi il doit pleurer, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème dans sa relation avec Allah Jalla wa Ala. Parce que les causes qui nous poussent à pleurer sont tellement nombreuses qu'on ne peut même pas tous les citer et les recenser. Mathalan, parmi les premières causes, ce que les pieux prédécesseurs appelaient Al-Khawfu min as-sabiqa. Ça veut dire quoi ça? Vous connaissez tous le hadith de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il dit Haddathani as-sadiq al-masduq. Le véridique, celui qui ne ment jamais, m'a informé. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Nutfatan, etc. Le hadith. À la fin de ce hadith, le prophète il dit quoi? Wallah, alladhi la ilaha ghayruh. Par celui qu'il n'y a de Seigneur en dehors de lui. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Certains d'entre vous feront des actions des gens du paradis. Hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'. Imagine-toi, tu œuvres, et entre toi et le paradis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coudée. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Ce qu'on appelle al-khawfu min as-sabiqa. Mais ce qui est écrit dans le livre le rattrape. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Alors à ce moment-là, il fera des actions des gens de l'enfer et il rentrera en enfer. Qu'Allah nous préserve de cet état-là. الْخَوْفُ مِنَ السَّابِقَ. C'est pour ça que plusieurs pieux prédécesseurs se levaient la nuit en pleurant et ils se levaient, ils disaient يَا رَبْ مَسْمُكَ عِنَّكَ. Oh Allah, quel est mon nom auprès de toi? أَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ. Fais-je partie des bienheureux ou des malheureux? Innamal a'malu bil khawatim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Les actions ne sont considérées que par leur fin. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ta fin déterminera ta destination auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al khawf min as-sabiqa. Hein? Ça c'était une chose qui doit faire pleurer constamment. Tu sais pas. T'es en train de rire, t'es en train de rigoler, t'es en train de vivre. Mais qui es-tu auprès d'Allah Jalla wa'ala? Qui es-tu? Tu ne sais même pas. Normalement, ce poids-là doit te mettre la peur dans ton cœur. Et tu dois te retourner constamment vers ton Seigneur en levant les mains. Ya Allah, fais en sorte que je fasse partie des bienheureux. Ce qu'on appelle Al-Khawfu min as-sabiqa. Aussi, un autre point essentiel, ce que les plus prédécesseurs ils appelaient Mas'alatul Qaboul. Ça, on prend très rarement conscience de cela. Il y a une différence, les frères, entre faire une action et que celle-ci soit acceptée. C'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, le frère, il a fait sa prière, c'est bon. Alhamdulillah, sallait. À tel point que tu vois certains, leur relation avec leur prière, c'est une relation de quoi? Je me débarrasse. Hein? Il est occupé. Il se dit, il y a la prière. Dès qu'il a fini, alhamdoulilah, au moins ça s'est fait. On entend ça souvent ou pas? Au moins ça s'est fait. Amma al-qaboul, il n'y en a que faire. Très peu et rares sont ceux qui mettent leur intention dans quoi? Dans le qaboul. Or, les plus prédécesseurs, comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, le quatrième calife, il disait quoi? La yakunu hammuk kathratul amal. Que ton souci ne soit pas les nombreuses œuvres, mais que ton souci soit l'acceptation des œuvres. C'est pour ça que il est rapporté, si je ne me trompe pas, de Omar ou de Abdullah ibn Omar, un des deux, il disait, si j'étais sûr qu'Allah Jalla wa Ala va accepter de moi deux rak'a, je voudrais mourir sur le champ. Hein? Alladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Ce verset, dans Tirmidhi, déjà une transmission bonne, Aïcha, radiallahu anha, elle dit, j'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce verset. Elle lui a dit, Ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yasriqun. Ce verset-là, là, Alladina yu'tuna ma ataw, ils font, ils se trouvent, ils donnent. Wa qulubuhum wajla. Ils sont apeurés. Pourquoi ils ont peur alors qu'ils font des bonnes actions? Aïcha, radiallahu anha, elle a dit, donc cela, c'est ceux qui font zina, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui font des péchés énormes. Alors ça, forcément, ils ont peur. Le prophète Hassan lui a dit, la yabnat as-siddiq. Oh non, fille du véridique. Là, il lui a dit, humul ladina yatasaddaqun. ويصبون ويصلون ولكن يخافون أن لا يتقبل الله منهم. Elle a dit non, mais ce sont ceux qui prient, qui jeûnent, qui donnent l'aumône, mais ils ont peur qu'Allah n'accepte rien. T'arrives devant Allah Jalla wa Ala et il n'y a rien du tout. Vous connaissez Mohamed ibn Moulkadir? Qui connaît Mohamed ibn Moulkadir, il lève la main. Qui a déjà entendu parler de Mohamed ibn Moulkadir? Hein? Je vous invite tous à lire la biographie de cet imam. Il fait partie des plus ascètes de cette communauté. Mohamed ibn Moulkadir, lorsqu'il était sur son lit de mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleurer énormément. Il a pleuré. Sa famille, lorsqu'elle l'a vu dans cet état-là, elle s'est mise à pleurer avec. Alors elle s'est dit, il faut absolument qu'on trouve une solution, sinon il va mourir de pleurs. Alors ils lui ont dit quoi? Alaykum bi Abi Hazim. Allez, accourir vers qui? Abu Hazim, qui était un des pieux, parmi les pieux prédécesseurs à l'époque de Mohammed ibn Moulkadir. Mohammed ibn Moulkadir, c'est le professeur de l'imam Malik. Donc ça fait partie des trois premières générations tout ça. Des générations que le prophète sallam a fait l'éloge. Sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni thumma alladhina, le hadith que vous connaissez tous. Alors Abu Hazim, il est venu. Il est rentré dans la chambre et au bout de quelques secondes, il s'est mis à pleurer plus que Mohammed ibn Moulkadir. Vous imaginez un petit peu la scène? Alors la famille de Mohammed ibn Moulkadir s'est retourné vers Abu Hazim et ils lui ont dit, on t'a ramené pour que tu le calmes, t'es en train de pleurer plus que lui. Alors il leur a dit, laissez ce serviteur, vous ne pourrez pas le guérir de ses pleurs, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que Mohammed ibn Kadir, lorsque Abu Hazim s'est dirigé vers lui, il lui a dit, pourquoi tu pleures? Et il lui a dit un verset. Il lui a dit, c'est quoi? وَبَدَى لَهُمْ بِلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ. Et il leur apparaîtra devant Allah Jalla wa Ala ce qu'ils ne pensaient même pas. Toi, tu vas venir, tu te dis, c'est bon, j'ai prié, j'ai donné sadaqa, j'ai fait ça, c'est bon, alhamdulillah. Et tu arrives devant Allah Jalla wa Ala, tout cela, ça part en fumée. Ce verset-là a fait en sorte que de nombreux pieux prédécesseurs ont perdu le sommeil. Mais regarde notre état. Donc ce qu'on a dit, al-khawf min as-sabiqa, al-qabul. Aussi, une chose qui faisait pleurer les pieux prédécesseurs, mais aujourd'hui dans cette société égoïste, aujourd'hui, les musulmans, malheureusement, qui sont censés être une communauté, hein, inna ummatukum ummatan wahida. Notre communauté, c'est une communauté unique, une communauté soudée. Cette communauté qui est censée être soudée, c'est devenu une communauté quoi? D'égoïstes. Hein? Et beaucoup d'entre nous qu'on se dise la vérité. Beaucoup d'entre nous ne pensent qu'à soi-même. Et ne vit que pour lui-même. Et rares sont ceux qui pensent à leur communauté. Rares sont ceux qui pensent à leur communauté. Et qui travaillent pour leur communauté. Or, la communauté, ça a toujours été aussi une cause de pleurs au temps du prophète sallam et des compagnons et des pieux prédécesseurs. Qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Vous connaissez tous les nombreux hadiths où le prophète sallam se levait la nuit et il pleurait toute la nuit, il disait quoi? Ummati, ummati, ummati. Hein? Donc aussi, imaginez-vous à notre époque, hein, où nos sœurs, elles se font violer. Elles se font... On les traite comme des esclaves. Même dans certains pays, nos sœurs, elles sont vendues par les koufars, les mécréants. Aujourd'hui, on voit ce que les non-musulmans, les mécréants font à notre communauté à droite, à gauche. Il n'y a qu'à ouvrir la télé, tu vois. Tu vois l'état de la communauté. Elle est attaquée de toutes parts. Nous, en France, t'as qu'à tendre l'oreille un petit peu. Et il n'y a pas une semaine sans que tu entends ta sœur qui s'est fait violer, qui s'est fait attaquer, qui s'est fait insulter, qui s'est fait. Mais tant que ça touche pas ta sœur, tant que ça touche pas quelqu'un de proche de toi, t'en as que faire. Et tu penses à personne. Et c'est pour ça que tu vas voir à la personne, elle se réveille que lorsqu'une personne l'a touchée. Il va te dire, elle est où cette communauté? Parce que c'est sa mère qui s'est fait insulter. Parce que c'est sa sœur à qui on a retiré le voile de force. Mais tant que ça ne concerne pas lui, il en a que faire. Or, vous connaissez tous hein, les différents récits de la sirah du prophète sallam. Lorsque simplement un mécréant au temps du prophète sallam, il a touché une musulmane et il a osé toucher à sa dignité, le prophète sallam, Jaya al-Juyush, il a fait des armées pour cela. Aujourd'hui, nous, ça nous passe au-dessus de la tête. Donc les causes qui doivent nous amener à pleurer sont nombreuses. Elles sont nombreuses. À toi de les rechercher et de les trouver. Elles sont présentes dans le Coran, elles sont présentes dans la Sunna, elles sont présentes dans la vie des pieux prédécesseurs. Aussi, ça fait combien de temps là? Hatta la ukthir alaykoum. Je vais terminer. Hein? Encore 10 minutes et je vous laisse. Hatta la ukthir alaykoum. Pour ne pas être lourd pour vous. Parmi, tayyib, on a découvert, on a cité certaines causes qui doivent nous amener à pleurer. Maintenant, c'est pourquoi nous pleurons pas. Ou, quelles sont les choses que si on prend soin de les mettre en place dans notre vie, on retrouvera cette relation avec Allah Jalla wa Ala, c'est-à-dire une relation de pleurs et de tristesse. La première des choses, adorer Allah Jalla wa Ala à travers ses dons et attributs. Ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, les croyants, le rapport qu'ils ont au nom et attributs, c'est un rapport catastrophique. Alors, tu as différentes personnes. Tu as ceux qui ne prêtent aucune attention au nom et attributs. Leur rapport, c'est quoi? C'est de mettre en place le hadith là. Hein, le hadith rapporté dans le Tirmidhi, les 99 noms là. D'accord? Qu'on voit accrocher partout. Qui, entre parenthèses, est un hadith qui n'est pas authentique. Donc, ce hadith là, ils l'accrochent chez eux. Et ça y est, c'est bon. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire vis-à-vis des noms et attributs d'Allah. Jalla wa ala. Ça, c'est une sorte. On a l'autre sorte. C'est des frères, leur rapport au nom et attributs, c'est un rapport de divergence et de débat. قالت الأشاعرة, قالت المعتزلة, قالت الجهمية, قالت الأحباش, قالت... Toute leur vie, c'est des combats. Alors que l'asl, al-jidal, le débat, ce n'est pas une chose qui est présente chez les gens de la sunna. C'est-à-dire que ce jidal-là, il est venu à cause des gens de l'innovation qui est innové dans cette porte-là. Donc les ulama, ils ont répondu. Mais ce n'est pas le premier rapport qu'on doit avoir avec les noms et attributs. Le premier rapport qu'on doit avoir avec les noms et attributs, c'est quoi? C'est un rapport de méditation, d'adoration et de mise en application dans notre vie. Et c'est là où j'en viens. Parmi les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle Al-Fattah. Al-Fattah, celui qui ouvre. Ton cœur, il est fermé. C'est pour ça que tu ne trouves pas cette relation avec Allah Jalla wa Ala. Tu veux l'ouvrir? Demande à celui qui possède les clés. Inna al-qulub bayna asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs sont entre les doigts du miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Demande à Allah Jalla wa Ala de t'ouvrir ton cœur, de te purifier ton cœur, il le purifiera et t'aidera. Donc tant que tu ne te prosterneras pas et tu ne lèveras pas tes mains et tu ne demanderas pas à Allah Jalla wa Ala de te purifier le cœur et de t'accorder cette relation, tu ne l'auras jamais. Première des choses, revenir vers Allah Jalla wa Ala. Le deuxième point, al-ihtimam bi'ulum al-qulub, le fait de donner de l'importance aux sciences du cœur. D'accord, le cœur, ça a une science. Dans le hadith de l'imam Ahmed, dans son musnad, le prophète Hassan nous informe que la première science qui sera élevée et qu'on notera sur terre, c'est quoi? Ilm al-khushu'. Donc le khushu', c'est une science. Donne de l'importance à ça. Quand tu vois une conférence où on parle de la relation d'Allah, la relation du serviteur avec son Seigneur, où on développe les sciences du cœur, cours et apprends et étudie. Troisième point, al-Qur'an. Ta relation avec le Coran, c'est un point capital. Quatrième point, là je cite rapidement, je ne développe pas. Quatrième point, si al-ashab, ta compagnie, soit accompagné des gens qui ont un état avec Allah Jalla wa Ala, alors sois persuadé que tu atteindras un état avec Allah Jalla wa Ala. Reste avec ceux qui passent toute leur journée à manger la chair, à colporter des ragots à droite à gauche, à parler de la dunya, à parler de l'argent, t'attends pas à ce que ton cœur se purifie. Aussi, qillatu ta'am, wa qillatu sharab, wa qillatu dam, wa qillatu kalam. Ces quatre points sont constamment cités par les gens de science. Le fait de dormir peu, de manger peu, de boire peu, de dormir peu. Hada yuslihu al-qalb. Aussi, parmi les choses qui sont venues dans la sunna qui purifient le cœur, le fait de se rappeler souvent de la mort. Aussi, le fait d'avoir un rapport avec les orphelins. Il est vu dans certains hadiths que ces choses-là purifient le cœur et l'adoucissent. Et pour résumer, moi je vous invite à revenir à une risala qui s'appelle Qaswatul Qalb. La risala de Ibn Rajab. Al-Hambali, rahmatullahi alayh, il cite ces différentes causes. Et dans notre livre, vous revenez à Bukhari, Muslim, et les recueils de la Sunna, on trouve ces choses-là. D'accord ? Donc ça, c'est les moyens par lesquels on purifie notre cœur. Et je clôture avec ça, je termine avec ça. C'est que, doit-on comprendre de ce sujet que le serviteur doit constamment pleurer ? Il n'a pas le droit de rigoler. On voit dans certaines biographies de pieux prédécesseurs, et c'est véridique ça, que tel pieux prédécesseur s'est juré de ne plus rire. Et qu'on ne l'a pas vu rire pendant 40 ans. Et c'est venu ça. Dans de nombreux récits et biographies de pieux prédécesseurs, il a été cité cela. Est-ce qu'on doit prendre cela pour exemple ? Là. Notre exemple, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète pleurait, mais aussi, il souriait. Il souriait. Il s'amusait. Il était joyeux durant sa vie. Lakin. Ça veut dire, c'est quoi le dabit ? C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari, mais pas dans son authentique, dans un livre qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad. D'accord ? Il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi ? Il dit Kathratu al-dahik tumitu al-qalb. Le fait de rire très souvent tue le cœur. Alors oui, tu as le droit de rire. Oui, tu as le droit de t'amuser. Et ce n'est pas contraire à la religion. Tant que ça reste dans les règles de l'islam. Rigole et amuse-toi. Mais à partir du moment où cette rigolade et cet amusement n'a que très peu de place dans ta vie, ça ne prend pas le dessus sur ta vie. Or aujourd'hui, si tu regardes la vie des gens, elle tourne autour de quoi ? De ces sujets-là. Hein ? Dans cette société de consommation, on est tous des robots de consommateurs. On fait de compte de consommer nuit et jour. On pense qu'à nos ventres, on pense qu'à à nos délices, à nos passions. Et ensuite, qu'à s'amuser, etc., etc., etc. Et les pleurs n'ont aucune place dans notre vie. Non, nous, c'est le contraire qu'on doit faire. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Ça, c'est cité dans le Coran. Dans quelle sourate ? Al-Fadiha. Ce que les ulama, ils l'ont appelé comment ? Al-Fadiha. Al-Tawba. Sourate Al-Tawba. Il est venu dans le Bukhari, dans le Hadith ibn Abbas, qu'elle est appelée comment ? Al-Fadiha. Allati tafdah. C'est une sourate. Elle dévoile le quoi ? L'hypocrite. Et parmi les signes les plus connus de l'hypocrisie, c'est quoi ? C'est le fait de rire énormément et de pleurer très très peu. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala, il s'adresse aux hypocrites, il dit quoi ? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum.